Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc, tous les mois, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre amphithéâtre et de le voir plein. Et puis, nous sommes heureux d'accueillir les personnes qui nous suivent en direct ou en différé d'ici quelques temps sur YouTube. Donc, je vais commencer, avant de présenter notre oratrice et la thématique de ce soir, par vous présenter brièvement nos prochaines conférences. Donc, la prochaine conférence début 2025, le 7 janvier, sera présentée par James Lequeux de l'Observatoire de Paris également, qui nous présentera une conférence intitulée « Nicolas-Louis de Lacaille, découvreur du ciel austral ». Donc une conférence un petit peu historique. Le mois suivant, le 4 février, nous recevrons Patrick Peter. Enfin, la conférence sera présentée par Patrick Peter. Patrick Peter est le directeur actuel de notre institut ici. Et il nous présentera une conférence intitulée « L'univers dans tous ses états quantiques ». Et le 4 mars... nous aurons notre collègue Laurent Lamy du Lésia et puis de Marseille également qui nous présentera une conférence consacrée aux aurores sur les autres planètes que la Terre. Et donc, et un petit commentaire aussi, un détail pratique, notre amphithéâtre là, c'est la dernière conférence que nous faisons avant travaux. Notre amphithéâtre va être fermé pendant quelques mois parce qu'il sera en travaux, donc les prochaines conférences on les fera dans une salle plus petite. Donc ceux qui veulent venir vraiment sur place, bah, réservez assez tôt parce que malheureusement nous aurons moins de place à distribuer que nous pouvons le faire là, ce sera juste pendant quelques mois. Nous diffuserons toujours en direct sur YouTube, donc ceux qui n'auront pas de place, et malheureusement vous serez plus nombreux à ne pas avoir de place, vous pourrez toujours suivre sur YouTube. Et puis toujours dans cet amphithéâtre, figurez-vous que cette semaine-là, dans cet amphithéâtre, eh ben, notre institut accueille sa 40e conférence scientifique internationale. Tous les ans, depuis 40 ans, notre institut organise une conférence scientifique internationale qui reçoit donc plein de chercheurs, de chercheuses de tout un tas de pays dans le monde qui viennent discuter de différentes thématiques. Les différentes thématiques qui sont abordées dans notre cher institut passent année après année sur cette conférence internationale. Et cette année, donc c'est la 40e, elle est consacrée à la physique de la formation des premières galaxies, notamment avec l'aide du télescope James Webb qui a fait beaucoup d'apports pour cette thématique. Et à l'occasion de ce colloque international, on a voulu organiser une conférence consacrée aux galaxies, puisque ça fait à peu près 100 ans, même il y a un article qui date de décembre 1924, que dû à Edwin Hubble, bon, il y a d'autres articles également à peu près à cette époque-là, qui marque la découverte des galaxies, que les galaxies sont extragalactiques. Donc je ne vais pas déflorer plus le sujet, c'est toi qui vas en parler, mais donc on t'a proposé, Paola, de faire cette conférence et t'as accepté, donc on est vraiment très heureux que tu nous présentes cette conférence. Donc Paola Di Matteo, donc tu es astronome au laboratoire GEPI à l'Observatoire de Paris. Tu as fait ta thèse avant à Rome, consacrée aux amas globulaires, je crois, donc liée aussi aux galaxies. Puis après, tu es arrivé assez vite à Paris, où tu es depuis. Tes travaux sont consacrés à l'évolution des galaxies, la dynamique, la chimie des galaxies, leur évolution dynamique, leur évolution chimique, l'activité stellaire, la formation d'étoiles dans les galaxies. Tu es très impliqué également dans de nombreux projets, notamment la mission Gaïa, qui sort tout un tas de résultats qui sont très importants également pour notre connaissance de la galaxie. Et donc ce soir, ta conférence s'intitule « Les galaxies, un voyage long d'un siècle ». Donc on va t'écouter. À la fin de la conférence, je donnerai le micro pour si des personnes veulent poser des questions ou des commentaires. Je retranscrirai également quelques questions ou commentaires qui pourront être mises sur le chat. Donc n'hésitez pas à intervenir pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et donc nous t'écoutons, je t'en prie.
Donc, hop là. Donc bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, bonsoir à tous. Donc, on commence cette heure de voyage ensemble à travers les galaxies, en particulier comment on a compris, qu'est-ce qu'on a compris au cours, en fait, des siècles à propos de ce système. Je commencerai en donnant une définition très simple de qu'est-ce que c'est une galaxie. Donc, une galaxie est un ensemble d'étoiles, de millions ou de milliards d'étoiles, ça dépend de la taille de la galaxie. Elle peut contenir du gaz, des poussières, toutes les étoiles qui constituent, au moins une partie des étoiles qui constituent ces galaxies ont leur système planétaire, et tout ça est maintenu ensemble par la gravité. Donc, par exemple, nous, la Terre, on sait, on orbite autour de notre étoile, qui est le Soleil, et le Soleil, dans ce schéma, lui, il orbite autour du centre de notre galaxie, qui est schématisé, mal schématisé, on le verra ici. Mais donc, comment on a compris déjà qu'il existe des galaxies et que qu'est-ce qu'on a depuis l'Antiquité, on peut observer le ciel, donc comment on est passé de cette observation des étoiles dans le ciel à une compréhension en fait de ces structures sur large échelle. Donc j'ai demandé à un collègue qui est Florent Renaud, qui travaille à l'Observatoire de Strasbourg et qui fait lors de ses voyages des magnifiques photos et prises d'images du ciel, de me donner l'une de ses photos qu'il a fait récemment quand il était aux États-Unis, dans la vallée de la mort. Et donc là, vous voyez une magnifique image d'une portion de notre galaxie. Donc qu'est-ce qu'on observe ? On est en train de voir des milliers et des milliers d'étoiles, mais on voit que ces étoiles ne se redistribuent pas de façon homogène dans le ciel. On voit clairement une bande blanchâtre, disons, et on voit aussi une bande plus noire, marron, qui empêche en fait à une partie de la lumière d'arriver jusqu'à nous. Et on reviendra sur ce point après. Donc, ceci est le ciel qu'on voit aujourd'hui d'un endroit spécifique sur Terre, mais ça, c'était le ciel aussi que les humains ont vu pour des milliers et des milliers d'années. Et donc, au fur et à mesure que les sociétés, les populations ont changé, tous ont essayé de donner une représentation de ce ciel, de comprendre, ça pouvait être une représentation religieuse, ça pouvait être une représentation mythologique, et à un moment donné, ça devient une compréhension scientifique de ce ciel. Donc, tout d'abord, vous devez déjà le savoir, mais d'où ça vient le nom galaxie ? Bon, le mot vient du grec, galaxie provient du terme grec galaxias, qui dérive du nom gala, lait. Et donc, ça nous rappelle en fait déjà cette couleur blanchâtre de cette bande qu'on voit dans le ciel. Parfois, on trouve aussi la définition occultus galacticus, c'est-à-dire le cercle laiteux, pour le fait qu'elle apparaît comme une bande, une sorte de bande circulaire dans le ciel. Alors, on a dit, au cours du temps, on a eu des représentations de cet ensemble d'étoiles qui, après, on a compris constituer une galaxie. Et donc, le mot galaxie, en venant du grec, c'est clair qu'une des premières, une des représentations qui a été faite de cette galaxie, eh bien, se retrouve dans la mythologie grecque. Donc, comment elle s'est formée, cette bande de lait, ce qu'on appelle la voie lactée aujourd'hui, dans la mythologie grecque. Bon, dans la mythologie grecque, alors, il y a Zeus qui a un petit problème parce qu'en fait, il a eu un enfant qui s'appelle Héraclès, qui est né de l'union avec une femme mortelle. Mais lui, il veut donner à son fils des qualités divines. En particulier, il veut qu'il devienne immortel. Et donc, qu'est-ce qu'il pense ? Il pense de un moment où Héra, sa femme, qui est une déesse, est en train de dormir, il approche Héraclès de son sein pour l'allaiter. Et parce que de cette façon, Héraclès peut prendre une partie des pouvoirs divins de Héra. Héra se réveille, rejette Héraclès parce qu'il ne le connaît pas, et de ce jet du fait qu'il repousse Héraclès, il y a du lait, en fait, du sang d'Héra qui s'asperge dans le ciel. Et donc ici, vous avez une représentation de cette mythologie qui vient des siècles et des siècles plus tard. Donc c'est un tableau de Paul Rubens qui est au musée del Prado à Madrid et qui nous représente la naissance de la Voie lactée. Donc vous avez Zeus là derrière qui regarde et Héraclès et Héra sur le devant de la scène. Donc, si on revient, donc on a vu avant cette bande de lait, d'étoiles, qui constitue notre galaxie. Alors, ce qu'il faut comprendre, je disais au départ, le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de son galactique, il est le Soleil et donc tout le système planétaire dans le disque de notre galaxie, ce qui rend très difficile comprendre quelle est la structure de notre galaxie, parce qu'on y est dedans. C'est comme être dans une forêt, et essayer de comprendre jusqu'à où les arbres distribués dans la forêt, s'il y a des régions plus denses ou moins denses, tout étant dans la forêt même. Donc, il a fallu aussi dans ce cas beaucoup de temps pour arriver à une compréhension qu'on dit à trois dimensions de notre galaxie, c'est-à-dire comprendre comment les étoiles sont redistribuées dans notre galaxie. Et ce qu'on est en train, par exemple, de faire actuellement avec la mission Gaïa que Guillaume a citée avant. Alors, Gaïa est une mission spatiale qui observe toutes les étoiles de notre galaxie jusqu'à une certaine magnitude de limite et donc qui a fait cette carte. Donc, ce que vous voyez là sont toutes les étoiles observées par Gaïa et ce qu'on voit, en fait, c'est toute notre galaxie. On voit son disque, on voit ses régions centrales et on voit aussi toute une faible distribution d'étoiles qui entoure le disque et qui constitue ce qu'on appelle l'halo de notre galaxie. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la Voie lactée? On sait qu'elle a une masse visible, donc une masse qu'on peut compter en étoile, d'environ 50 milliards de masses solaires. Donc, vous prenez 50 milliards d'étoiles comme le Soleil et ça vous donne une idée de la masse de notre galaxie. Et les dimensions, on estime qu'essentiellement le disque de cette galaxie est environ 40 kiloparsecs, ou 1 kiloparsec, c'est environ 30 millions de milliards de kilomètres. Alors, je disais, c'est difficile d'avoir une idée de la structure en trois dimensions de notre galaxie, donc il y a des méthodes plus ou moins indirectes pour arriver à la comprendre. Et ce qu'on a compris, c'est que si on pouvait s'éloigner du disque de la galaxie et regarder notre galaxie du haut, comme si on regardait le disque en étant à haut de ce disque, à des millions et millions de kilomètres au-dessous, on verrait probablement une structure de ce type. Donc la galaxie, notre galaxie vue de loin devrait ressembler à ça. Donc une galaxie à disque avec des bras spiraux, avec ce qu'on appelle une barre dans les régions centrales, on en verra d'autres dans la suite. Et la position du Soleil, elle est représentée en grand ici, avec ce symbole. Donc le Soleil est environ à mi-chemin, disons, entre les régions centrales et la périphérie du disque galactique. Alors, je reviens un instant à cette image du ciel de Gaïa, parce que maintenant, je veux aller parler de deux autres objets qu'on voit dans cette image ici, et donc qui sont les nuages de Magellan, ce qu'on appelle la grande et le petit nuage de Magellan. Donc, il s'agit encore de galaxies, dans ce cas, sont ce qu'on appelle des galaxies naines irrégulières. Elles sont naines parce que leur masse est beaucoup plus petite et leur taille est beaucoup plus petite que celle de notre galaxie, par exemple. Donc, il y a toute une hiérarchie dans les galaxies. Il y en a de grandes et il y en a de petites. Donc, le grand et le petit nuage de Magellan sont plus petits que la Voie lactée. Ils sont irrégulières parce qu'ils n'ont pas une forme qui peut être facilement classifiée. Ils se trouvent à une distance de la Voie lactée entre 50 et 60 kiloparsecs. Donc, j'essaie de rappeler toujours ici les unités si vous voulez faire une conversion en kilomètres. Alors, actuellement, la masse d'étoiles qui est dans ces deux systèmes est respectivement de 1 milliard et environ 500 millions de masses solaires. Okay? Donc, on est déjà un facteur entre 10 et 100 plus petit que dans le cas de la Voie lactée. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a compris récemment, c'est qu'en fait, ces deux galaxies ont un pont, ce qu'on appelle un pont d'étoiles qui les lie. Donc, vous voyez, elles ne sont pas vraiment deux systèmes isolés. Il y a des étoiles qui sont arrachées d'une galaxie vers l'autre. Et on reviendra plus tard sur les raisons, qu'est-ce qui provoque cette redistribution de matière parmi les galaxies. Et infine, sont aussi, c'est intéressant, parmi les galaxies qui sont les plus proches de la nôtre, sont aussi les uniques galaxies qui sont encore riches en gaz. Donc, elles n'ont pas que des étoiles, elles ont aussi du gaz qui est dans les galaxies mêmes, c'est-à-dire ici, ici, mais c'est aussi du gaz qui, en fait, forme toute une traînée de gaz qui entoure, en fait, toute une partie de notre Voie lactée. Donc, ces nuages de Magellan sont connus depuis longtemps. En fait, ce sont des systèmes qu'on peut observer à l'œil nu. Et en fait, déjà dans le 16e siècle, on commence à trouver des indications, des citations de ces deux systèmes. Et en particulier, ils sont signalés par Pigafetta, qui accompagnait en fait Magellan dans ses expéditions autour du monde. Donc, on est dans la première moitié du 16e siècle. Donc, c'est seulement après, en 1700, qu'en fait, on commence à appeler ces deux nuages comme le petit et le grand nuage. Ah, vraiment, on les appelle petits et grands à partir de leur taille, et les appelle nuages parce qu'en les regardant à l'œil nu, on n'était pas capable de comprendre qu'elles étaient toutes formées d'étoiles. Ce qu'on voyait, c'était essentiellement des taches dans le ciel. Alors, je reviens sur cette image de Gaïa parce qu'il y a encore quelque chose qui m'intéresse, et cette fois-ci, c'est ici. Donc, c'est un système qui, si on le regarde, a une taille beaucoup plus petite dans le ciel que, par exemple, les deux nuages de Magellan. On a plus de mal à voir qu'il y a quelque chose ici. Mais en fait, il y a une magnifique galaxie qui se cache dans ce petit carré et qui est la galaxie d'Andromède, dont peut-être vous avez déjà entendu parler. Donc, qui est Andromède? Andromède est la galaxie la plus massive parmi les plus proches de la Voie lactée. Donc, on a une masse solaire qui est estimée totale, une masse stellaire, pardon, qui est estimée à environ le double de la masse de la Voie lactée. Et pourtant, donc, c'est une galaxie massive. On la voit toute petite dans le ciel parce que par rapport au nuage de Magellan, elle est beaucoup plus lointaine. Donc, il y a un effet de distance qui fait que sur le ciel, elle apparaît plus petite. Mais c'est aussi, elle, une galaxie qui est connue depuis longtemps. Donc, la première observation de la galaxie d'Andromède est faite remonter à l'astronome iranien Al-Soufi, qui décrit lui aussi Andromède comme un petit nuage. Et c'est aussi intéressant parce que c'est la première galaxie autre que la Voie lactée qui est mentionnée dans un texte écrit passé. Donc, vous voyez, on a ce système, on commence à voir qu'il y a des systèmes qu'on connaît depuis des siècles, mais pour des siècles et des siècles, ces systèmes ont été identifiés comme des nuages. Or, tous connus de l'Antiquité, considérés, donc, pour longtemps, ces nuages ont été considérés comme partie d'un seul et d'un même univers. C'est-à-dire, comme on le verra, il nous a fallu du temps pour arriver à comprendre que ces nuages étaient quelque chose d'autre que notre galaxie. Pour longtemps, on a pensé que notre galaxie englobait l'univers dans son entièreté et que donc tout faisait partie de notre galaxie. Alors, comment on est arrivé à comprendre qu'en fait, ces nuages, comme les appelaient ces nébuleuses, étaient d'autres systèmes externes à la galaxie même? Donc, il a fallu du temps, et si on passe les temps anciens et on arrive à l'époque moderne, un saut, une révolution dans la compréhension, en fait, dans le passage quelque part d'une représentation qui peut être religieuse, qui peut être mythologique de tous ces systèmes, à une compréhension scientifique de ce système, arrive au moment où on peut commencer à observer le ciel avec des lunettes et après des télescopes. Parce que cette possibilité d'aller au-delà de la vision à l'œil nu nous permet d'aller décrire, comprendre que ces systèmes ont des caractéristiques très spécifiques. Alors, le premier qui pointe une lunette vers le ciel est Galilée, on est au début du XVIIe siècle. Et en fait, entre 1609 et 1610, avec sa lunette, il commence à observer tout ce qu'il peut. Et c'est la Lune, et c'est les lunes de Jupiter. Il regarde partout où il peut dans la Voie lactée. Et en 1610, il écrit ce qu'il est le Sidereus Nuncius, donc quelque part le messager à propos de tout ce qui est lié aux étoiles, dans lequel il écrit qu'en fait, tout ce qu'il voit, c'est de nombreuses étoiles qui sont disséminées par morceaux. Dans n'importe quelle région, je dirige ma lunette, je vois une multitude d'étoiles qui se présentent à ma vue. dont beaucoup, on les voit suffisamment grands et bien distincts. Donc on commence à comprendre que la Voie lactée est formée d'étoiles. Le temps passe, on est le siècle d'après, et Emmanuel Kant, qui était un philosophe, fait une hypothèse. Il dit, je pense que ces nébuleuses, ce qu'on appelle des nébuleuses, en fait, ne sont pas des systèmes qui appartiennent à la Voie lactée, mais sont des faits de nombreuses étoiles qui se trouvent à des distances très grandes de nous. Donc, sont des univers, îles, similaires aux nôtres, mais sont externes aux nôtres. Et le problème, c'est qu'en fait, dans le cas de cette suggestion de Kant, c'était quelque part une hypothèse philosophique, mais qui n'avait pas une preuve observationnelle. Pour pouvoir démontrer d'un point de vue scientifique que cette hypothèse était correcte, on avait besoin de preuves. Et il faut attendre encore un petit peu pour avoir des preuves. Mais entre-temps, avec les télescopes, on commence aussi à cataloguer, à observer de plus en plus de nébuleuses et à faire des catalogues. Et ces catalogues, on verra la nomenclature qui sort de certains de ces catalogues utilisés encore aujourd'hui. Donc, en particulier, il y a Charles Messier qui fait un catalogue, établit un catalogue d'un peu plus d'une centaine de ces nébuleuses. Et pourquoi Messier fait ça? En fait, Messier n'était pas intéressé vraiment à étudier les nébuleuses lui-même. Lui, il voulait étudier les comètes. Et il ne voulait pas se tromper. Il ne voulait pas que les autres chercheurs de comètes se trompent en regardant dans le ciel. Donc, il voulait avoir un catalogue d'objets fixes qu'il ne fallait pas confondre avec des comètes. Donc, il met dans ce catalogue de nébuleuses 110 objets à ne pas confondre avec deux comètes. Parce qu'en fait, il s'était trompé lui-même. À un moment donné, il cherchait la comète d'Halley et par contre, il avait observé une nébuleuse. Donc, il avait décidé de cataloguer toutes ces nébuleuses pour que les autres ne se trompent pas. Et juste en passant, la même galaxie d'Andromède est dans ce catalogue, est connu comme Monsieur 31. Encore aujourd'hui, souvent, quand on fait référence à Andromède, on l'appelle M31 de son catalogue. Les catalogues continuent tout au cours de la deuxième partie du 1700 et 2800, et en particulier, il y a la famille Herschel, donc William et Caroline, qui sont frères et sœurs, et ensuite le fils de William, John Herschel, qui continue l'observation de ces nébuleuses. Et en particulier, John, aussi grâce aux études de son père, publie un deuxième catalogue qui, cette fois, contient un peu plus de 5000 nébuleuses et amas d'étoiles et qui est connu comme le General Catalog. Alors, en continuant à utiliser le télescope, en fait, on commence à décortiquer de plus en plus les propriétés de ces nébuleuses. Et moi, je trouve ce résultat extraordinaire. Donc, c'est un résultat qui vient de Lord Rosse. C'était un ingénieur et un astronome anglais qui, en 1800, commence à construire des télescopes. Et à un moment donné, lui, il a l'un des télescopes les plus grands de l'époque. Et avec ce télescope, il pointe les nébuleuses. À gauche, vous voyez un dessin que Lord Rosse fait de l'une de ses observations. Qu'est-ce qu'il découvre, Lord Rosse? Que cette galaxie, qui est connue comme la galaxie du tourbillon, a en fait une structure spirale. Et voici le dessin de Lord Rosse de cette galaxie. Vous voyez aussi qu'il y a une autre, on sait maintenant, est une autre petite galaxie qui est sur la droite de cette image. Et voici la même galaxie comme a été observée par le télescope Hubble quelques siècles plus tard. Donc, Lord Rosse n'étudie pas que la galaxie du tourbillon, il étudie entre autres la galaxie d'Andromède et dit, tiens, aussi dans la galaxie d'Andromède, j'observe une structure spirale. On ne savait pas encore que c'était des galaxies externes, mais on commençait à comprendre que ces nébuleuses avaient une structure, avaient des structures péculières. Et après, on fait encore un petit saut, on arrive au début de 1900, on est proche de la compréhension de ces nébuleuses. En 1920, l'astronomie est passionnée par un débat, qui est un débat justement sur l'origine de ces nébuleuses. Sont-elles dans notre galaxie ou sont-elles extérieures? Donc il y a un grand débat qui, je crois, se tient en avril 1920 au Musée d'histoire naturelle à Washington. et qui voit deux astronomes exprimer des opinions différentes, des idées différentes à propos de la question de l'origine des nébuleuses. D'un côté, vous avez Shapley, de l'autre, Heber Curtis. Shapley dit, pour moi, ces nébuleuses sont dans la Voie lactée. Ce ne sont pas des objets externes, ça fait tout partie de notre galaxie, sont juste à la périphérie de notre galaxie. Et de l'autre côté, vous avez Curtis qui dit, non, non, il y a quelque chose là qui ne me convainc pas, il y a des indications, quand je regarde dans Andromède, par exemple, dans la nébuleuse d'Andromède, je vois des caractéristiques qui me font penser que ce n'est pas une galaxie, ce n'est pas une partie de notre galaxie. Qu'est-ce qu'il voyait, Curtis, qui lui faisait, disons, lui donner l'impression de voir quelque chose d'autre par rapport à nous? Ben, il observait, en fait, dans Andromède, des novées, qui sont des étoiles qui, soudainement, au cours de leur vie, changent leur luminosité. Et il avait vu, en fait, que dans Andromède, il y avait beaucoup plus de novées, donc imaginez Andromède, c'était cette petite partie qu'on voyait dans le ciel, mais dans cette petite région du ciel, il voyait beaucoup plus de novées qu'ailleurs dans la Voie lactée. Et donc il disait, si Andromède est partie de la Voie lactée, pourquoi il y a autant de novées là-dedans? Pour moi, ce n'est pas partie de la Voie lactée, c'est un objet beaucoup plus externe et je vois beaucoup de novées parce qu'essentiellement, je vois toutes les novées que je pourrais voir dans la galaxie. Et enfin, on arrive à Hubble. On est juste quelques années après. Donc, quelque part, Hubble continue cette idée qui était déjà dans l'air, hein, de commencer à voir vraiment, à comprendre si ces nébuleuses étaient vraiment quelque chose d'externe. Mais qu'est-ce qu'il manquait à Hubble et qu'est-ce qu'il manquait à la communauté à l'époque pour prouver qu'il s'agissait de systèmes externes? Il manquait des mesures de distance. Si on était capable de montrer que la distance de ces objets était beaucoup plus grande que la taille estimée de la Voie lactée à l'époque, on avait la démonstration. Et c'est ce que Hubble fait. Donc Hubble a eu une carrière assez particulière parce que quelque part, il était un passionné d'astronomie qui après avait fait des études en loi pour essayer de suivre les volontés de son pour essayer de suivre les volontés de son père. Et après, une fois que le père meurt, il rentre aux États-Unis et il se redonne à sa passion de l'astronomie. Et en 1924, il arrive à mesurer la distance de la nébuleuse d'Andromède et à démontrer qu'il s'agit d'une galaxie. Alors, comment il fait ça? Ben, il fait des observations à partir de Mount Wilson, en Californie. Et en particulier, ce qu'il va observer sont des étoiles assez particulières qu'on appelle les céphéides. Donc, qu'est-ce qu'elles sont, des céphéides? Sont des étoiles qui sont beaucoup plus lumineuses que le Soleil. Donc jusqu'à 5000 fois plus lumineuses. Ça veut dire qu'on les voit très bien, même si elles sont très distantes. Donc elles sont visibles à grande distance. Mais Hubble a besoin d'arriver à associer. Donc il observe ces étoiles très lumineuses dans la nébuleuse d'Andromède, mais il a besoin d'estimer la distance de ces étoiles. Et heureusement, quelques années avant, Henrietta Leavitt avait on est en 1912, donc 12 ans avant, Henrietta Leavitt avait fait une étude de ces étoiles dans les nuages de Magellan. Et ce qu'elle avait montré, c'était que ces étoiles ont des variations de leur luminosité qui sont régulières. Donc, ce qu'on appelle une période, on peut mesurer. C'est ce qui est montré dans cette figure ici. Ce que vous avez, c'est la variation de la luminosité, on reporte sur une figure, la luminosité d'une étoile en fonction du temps. Et vous voyez qu'il y a des variations qui sont régulières. Ah, donc, Henrietta s'était rendue compte, en fait, que ces variations, donc ce qu'on appelle la période de variation de cette luminosité, étaient associées à la luminosité même de l'étoile. Donc, elle avait montré, avait fait une découverte fondamentale qui est encore très importante pour nous, pour mesurer aujourd'hui les distances de tout un tas d'étoiles et de systèmes dans l'univers. Ce qu'elle avait montré, c'est que ces céphéides étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des chandelles standards, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour arriver à donner une mesure de distance. Comment on fait? On observe une céphéide, on calcule la période de variation de la luminosité, et grâce à Henrietta Leavitt, on sait qu'il existe une relation entre la luminosité de l'étoile et la période de variation de la coupe de lumière. Et comme ça, même si on mesure juste une luminosité apparente de l'étoile, on pourrait monter à la luminosité absolue et donc à la distance de l'étoile. Donc, Hubble utilise ce résultat et entre 1923 et 1924, il observe des dizaines de céphéides dans Andromède et en mesurant leur période, il arrive à établir la distance de la nébuleuse d'Andromède et il montre que c'est beaucoup plus grand de la taille de la Voie lactée. Donc Andromède est externe à la Voie lactée. Donc c'est une découverte qui lui vaut aussi un article sur le New York Times en novembre 24. Et c'est marrant de voir que le New York Times s'était trompé sur la façon dont ils avaient écrit Hubble. Mais donc cet article sur le New York Times de novembre 24 dit Hubble, le docteur Hubble confirme que les nébuleuses à spirale sont des systèmes stellaires, sont des univers-îles, comme un peu comme Kant l'avait suggéré, similaires à notre galaxie. Et là, pour la recherche galactique extragalactique, s'ouvre une époque complètement différente. Imaginez comme ouvrir les fenêtres et comprendre en fait qu'on a une dimension beaucoup plus grande qu'on peut, dans laquelle on peut chercher et on peut essayer de comprendre donc qu'est-ce que sont ces galaxies, dans quelle forme elles se trouvent. On avait un monde à explorer. Et Hubble continue l'exploration de ce monde extragalactique, donc au-delà de notre galaxie. Et en particulier, entre autres, il s'intéresse aux formes de ces galaxies. Donc, Hubble et ensuite Deva Couleur, qui était un astronome franco-américain qui, entre autres, a travaillé ici à l'IAP après la guerre. En fait, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à classer les galaxies selon leur forme. Alors, en astronomie, on fait souvent ça. Quand on a quelque chose de nouveau, il faut mettre de l'ordre. Donc, il faut commencer à classer les choses. Parce que parfois, la classification nous aide aussi à comprendre est-ce qu'il y a des liens entre les différents groupes, est-ce qu'il y a un lien qui peut être aussi un lien d'évolution temporelle, on le verra, entre les différents groupes. Donc, ce que Hubble et Deva Couleur montrent, c'est qu'en fait, les galaxies, pour la plupart, les galaxies qu'ils pouvaient observer viennent avec des formes bien précises. On a des galaxies, et donc ils reportent ces différentes formes sur un diagramme qui est connu comme le diagramme d'Hubble, d'Hubble de Vacouleur, mais qui est aussi appelé le diagramme en diapason ou en fourchette, parce que vous voyez, vous avez une branche de ce diagramme sur la gauche et après deux branches qui se déparent vers la droite. Donc, je disais, il y a des formes différentes des galaxies qui sont rangées dans ce diagramme. Donc, ce que vous avez sur la gauche, là où il y a la séquence unique, sont les galaxies qui sont appelées elliptiques. Pourquoi on les appelle elliptiques? Parce qu'on regarde leur forme, et ça a une forme, elles ont une forme d'une ellipse. On ne voit pas de disque, on voit une structure un peu comme un ballon de rugby qui peut être plus ou moins aplatie. Et donc c'est pour ça que aussi les galaxies elliptiques prennent différentes formes. Et après, on voit vers la droite, par contre, on voit deux branches. La branche du haut est faite des galaxies spirales. Un peu comme on a dit, ça doit être la Voie lactée à des bras spiraux. Donc, on classe à haut toutes les galaxies pour lesquelles on voit des bras spiraux. Et dans le bas, on a encore des galaxies spirales, mais avec une barre au centre. Donc, exactement comme la Voie lactée. La Voie lactée, si on voulait la classer, ça serait probablement entre un type, ce qu'on appelle SBB, SBC. Elle serait par là. Donc, qu'est-ce que ce diagramme est en train de nous dire? Pour l'instant, ce n'est pas un diagramme évolutif. Il est simplement en train de nous dire que les galaxies peuvent être classées en différentes morphologies. Et si on passe des elliptiques vers les galaxies spirales, on voit qu'on a des disques à droite, alors qu'à gauche, on ne voit pas de disques. On a des bras spiraux. On voit aussi qu'il y a des régions centrales, ce qu'on appelle un bulbe, donc une sorte de surdensité dans les régions centrales des galaxies, qui est de moins en moins important comme on passe des galaxies spirales de type A, comme on les appelle SA ou SC. Et en bas, on a des galaxies qui ont des propriétés similaires, mais en plus, ils ont cette barre au centre. Pour l'instant, vous pouvez imaginer cette barre simplement comme une structure, comme une barre, formée pour la plupart d'étoiles qui se trouvent, qui tournent autour du centre de la galaxie. Et après, tout à droite, vous avez des galaxies dont la forme est irrégulière. Donc, ils n'arrivent pas à les classer ni en elliptique, ni en galaxie spirale. Donc, je voulais juste vous montrer quelques autres exemples de ces galaxies selon leur type, parce que c'est intéressant. En fait, on voit que même à l'intérieur de chaque groupe, il y a des formes différentes. Donc, on passe de galaxies elliptiques qu'on appelle les E0, qui sont très rondes, à des galaxies de type E6, qui sont beaucoup plus aplaties. Je parle de lenticulaire dans un instant. Après, on voit les galaxies spirales. Donc ici, vous avez deux exemples de galaxies spirales. L'un vu, comme on dit, de face. Donc on voit la galaxie comme elle apparaît avec le disque qui nous regarde quelque part. Et on voit très bien toute la structure spirale et les régions centrales. Ici, une autre galaxie spirale, cette fois-ci vue de tranche. Donc on ne voit pas vraiment la structure spirale. Et après, les différents sous-types des galaxies spirales. Donc, dès qu'on va des galaxies SA ou SD, on a une structure spirale qui devient de plus en plus large. Voici les spirales barrées. Donc, dans tous les cas, on a ces barres dans les régions centrales. Et après, je reviens un instant arrière, parce que si on regarde encore un instant ce diagramme d'Hubble, on voit qu'à l'intersection entre les spirales et les galaxies elliptiques, on a un autre type de galaxie qu'on appelle les lenticulaires. Elles sont un peu à mi-chemin, c'est comme une galaxie elliptique entourée d'un disque. On voit une grosse ellipse au centre, disons, et un petit disque autour. Et elles sont là, sont en général des galaxies formées d'étoiles vieilles. Il n'y a pas de formation stellaire, de nouvelles étoiles qui se forment à la différence des galaxies spirales, mais elles ont quand même un disque. Donc ça veut dire qu'à une époque, elles ont formé des étoiles de façon intense, mais que cette formation stellaire, pour des raisons en partie connues, s'est arrêtée. Donc, il y a des formes, les formes sont différentes, on peut les classer, mais est-ce que les formes sont figées dans le temps? Est-ce que les galaxies changent de forme au cours de leur vie? Alors, il faut comprendre que les galaxies sont formées entre autres d'étoiles, on a dit. Et dans une galaxie, on trouve des étoiles très vieilles, vieilles comme l'âge de l'univers, 13 milliards d'années, et on voit dans certaines galaxies, les étoiles se forment encore aujourd'hui. C'est par exemple le cas de la Voie lactée. On forme environ une étoile comme le Soleil par an. Donc, au cours de cette vie qui dure 13 milliards d'années, est-ce que les galaxies ont changé la forme ou est-ce que toutes les galaxies sont restées dans la forme avec laquelle on les voit aujourd'hui? Alors, pour comprendre cela, il faut aller avoir un autre catalogue. Cette fois-ci, on est dans la moitié des années 60 et il y a Alton Arp, qui est un astronome américain, qui dit... D'accord, il y a cette classification faite par Hubble et de Vacouleur, mais en fait, il y a beaucoup de galaxies que je n'arrive pas à classer, à remettre dans cette classification. Et moi, je pense que ces galaxies-là, il faut les étudier un peu plus en détail parce qu'elles sont importantes pour comprendre pourquoi elles existent de différentes formes de galaxies. Donc, allons voir ces galaxies qu'on appelle particulières parce qu'elles ont une forme qui ne rentre pas dans la classification. Donc, qu'est-ce qu'il fait ARP? Il présente un catalogue, il publie un catalogue d'un peu plus de 300 galaxies avec des structures particulières qui ne rentrent pas dans cette classification. Il le publie en 66 et ici, je vous montre certains exemples des galaxies que ARP publie dans son catalogue. Donc, ce que vous avez dans les prochains transparents et dans celle-là, ici, vous avez toujours une petite image avec la galaxie telle que elle était publiée dans le catalogue de HARP. Et après, plus grand, vous avez l'image de l'Hubble Space Telescope de la même région et donc de la même galaxie. Donc ici, vous avez un premier exemple d'une galaxie que HARP identifie comme une galaxie particulière. Il s'agit d'une galaxie qu'on appelle la galaxie des antennes. On en verra une vision un peu plus à grande échelle plus tard, qui est classée aussi dans le catalogue de HARP comme HARP 244. Et vous voyez que on ne saurait pas où la classer par rapport à ce qu'on a vu avant. En fait, ce qu'on voit, c'est une région qui semble, avec un œil un peu expert, mais une région ici qui semble le centre de l'une des galaxies du diagramme d'Hubble, un autre centre ici, mais après on voit beaucoup de matière entre ces deux noyaux de deux galaxies différentes. On verra dans un instant en fait que les galaxies des antennes sont le résultat final d'une fusion de deux galaxies. Ce sont deux fusions qui sont en train de se, deux galaxies qui sont en train de se rapprocher, qui ont mis en commun leur matière et dont les noyaux sont très proches l'un des autres. Donc ce sont deux galaxies qui sont vraiment dans la phase finale de fusion. Ici, vous avez un autre système, 6621, HARP 81. Et dans ce cas, en fait, on pense qu'il s'agit de deux galaxies qui sont en interaction, mais pas dans des phases si ultimes, disons, comme dans le cas des galaxies des antennes. Voici l'exemple qu'on avait vu avant, la galaxie du tourbillon. Lui, elle aussi, elle est dans le catalogue de HARP, parce que c'est vrai qu'il y a une belle galaxie spirale, mais on voit quand même que les bras spiraux sont très ouverts. Quelque part, on voit qu'il y a une asymétrie parmi les bras spiraux qui fait que HARP la classe parmi les galaxies particulières. Après, vous en avez d'autres, comme la galaxie des souris. On a l'impression de voir deux souris qui courent l'un d'après l'autre avec les queues des souris. Et donc là, on voit clairement les deux galaxies. On voit un pont de matière entre les deux, un peu comme on l'avait vu pour les nuages de Magellan. Et après, on voit ce qu'on appelle ces traînées de marée qui sont faites d'étoiles, de gaz, d'étoiles vieilles et d'étoiles plus jeunes qui s'échappent des deux corps principaux des deux galaxies. La galaxie du Tétard, c'est un autre exemple. Vous voyez un disque, vous voyez aussi des bras spiraux, mais vous voyez que c'est perturbé. Et en effet, on a toute cette queue de matière, d'étoiles, de gaz qui est arrachée de la galaxie principale. HARP 256. Donc, le travail de HARP permet de dire, voilà, il y a des galaxies qui sont particulières. Essayons d'étudier un peu plus ces galaxies, comprenons pourquoi ces galaxies se forment et peut-être qu'on comprendra aussi quelque chose en plus du diagramme d'Hubble. Et la compréhension de ce type de galaxies ne tarde pas à arriver. Donc le catalogue de HARP est de la deuxième moitié des années 60. Au début des années 70, commencent les premières simulations de galaxies. Les premiers calculateurs sont là, et donc les frères Toumré, Allard et Youri Toumré, dans des travaux qui sont encore des travaux très étudiés, même 50 ans après, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se poser la question, mais est-ce que ces galaxies que HARP a classées pourraient être le résultat ces systèmes que HARP a classés comme galaxies particulières pourraient être le résultat de deux systèmes en interaction. Si je prends deux galaxies différentes et je les laisse interagir à travers les forces gravitationnelles, est-ce que je peux arriver à former des systèmes comme celles que je vois? La réponse est oui. Donc, ils font une série d'expériences, c'est un article très intéressant, simple, mais en même temps qui sont très puissants parce qu'ils arrivent vraiment à montrer un résultat. Donc, vous voyez là-haut, par exemple, ils prennent deux disques. Chaque disque, donc il représente chaque galaxie comme un ensemble de points, et ils font interagir ce point à travers la loi de gravité. Les deux galaxies orbitent l'une autour de l'autre, et vous voyez que, par exemple, dans cette expérience, donc ce que vous voyez, c'est le résultat de cette simulation à des temps différents. On arrive à la fin à former un système dans la simulation qui rappelle beaucoup la galaxie du tourbillon qui est montrée sur la gauche. Donc, HARP, Toumré montre que les galaxies de HARP sont le résultat d'effets due à la gravitation. La gravitation peut amener deux galaxies qui sont très proches l'une de l'autre à leur arracher une partie de la matière, à redistribuer la matière dans la galaxie et à les déformer. Et donc, on commence à comprendre qu'on peut interpréter ces galaxies avec des formes particulières de cette façon-là. Ici, vous avez un autre exemple, pris toujours du travail de Toumré et Toumré, dans lequel ils montrent qu'il est possible, avec une de leurs simulations, de reproduire la galaxie des antennes. Avant, je vous avais montré la galaxie des antennes et je vous avais montré cette image prise du télescope spatial Hubble. Mais en fait, cette image constitue les régions centrales qu'on voit ici dans l'image du bas. Donc en fait, la galaxie des antennes a ces structures qui s'éloignent beaucoup du centre des galaxies. C'est pour ça qu'on l'appelle les antennes. C'est ces deux structures qui donnent le nom aux galaxies. Et voilà une simulation qui reproduit ce même type de structure. Deux antennes et les deux corps principaux des galaxies qui sont là. Alors, pour les personnes qui travaillent sur les simulations, normalement, c'est toujours difficile d'arriver à reproduire avec une telle similarité des systèmes. Donc, ce sont les premières simulations et très rapidement arrivent à des résultats en fait, qui sont assez impressionnants. Je veux aller un peu plus vite sur cette partie-là. Après, si on est intéressé, on peut revenir à plus tard pendant les questions. Et je voulais juste vous montrer, donc je vous ai montré Toumré et Toumré, on était dans les années 72, mais là, je voudrais juste vous montrer, si j'arrive à le faire marcher, ah, voilà, je vais le faire marcher, je le lance. Une simulation, en fait, beaucoup plus récente, faite il y a une dizaine d'années environ, de l'interaction entre deux galaxies. Donc là, c'est une simulation qui ne contient pas que des étoiles, il contient aussi du gaz, il y a des nouvelles étoiles qui se forment. Et en fait, vous voyez ces deux disques de galaxies qui commencent à passer proches l'un des autres, à être fortement perturbés, et on arrive en fait avant la fin, vraiment la fusion des deux systèmes, à produire quelque chose comme les antennes qui sont sur la droite. Alors, dans un instant, je voudrais juste vous dire pourquoi ces galaxies se déforment ainsi. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet de marée. Donc, c'est un effet qui est dû simplement à la gravitation, l'effet de la gravitation, et c'est le même effet qu'on voit sur la Terre dû à l'effet de la présence de la Lune. Donc, supposez que vous avez une galaxie qui ici est ce point orange, cette distribution orange, qui passe proche d'une autre galaxie. Alors, les deux. Donc, cette galaxie qui est montrée ici en bleu va exercer une attraction gravitationnelle. Donc, l'attraction gravitationnelle, c'est la force de Newton, non ? Qui nous dit que si on a deux corps de masse M1 et M2 qui sont à une distance R, bon, les deux corps seront chacun subiront une force qui est donnée par cette expression. Donc, M2 subit une force qui est due à M1, une force d'attraction gravitationnelle, mais cette force, parce que la loi de Newton dépend de la distance au carré des deux masses, cette force, cette attraction gravitationnelle n'est pas la même dans ce point de la galaxie et dans l'autre. La force est différente. Cette partie-là, celle qui est plus proche de l'autre galaxie, subit une accélération gravitationnelle qui est plus importante. Et ça amène à une déformation que vous voyez là. Éventuellement, cette déformation amène vraiment à détruire le système. Donc, on a compris que les galaxies n'ont pas toutes la même forme, on a compris que les galaxies peuvent changer leur forme de façon aussi brutale lors de ces interactions, mais quel est le point final de cette évolution? Alors, si les interactions sont suffisamment, si les galaxies passent suffisamment proches les unes des autres, l'interaction peut amener à la fusion des deux galaxies. Donc, au départ, on avait deux galaxies séparées, à la fin, on a une galaxie finale. Et ce qu'on a compris au cours des années, c'est que cette façon-là permet de passer, par exemple, de deux galaxies à disque, deux galaxies à spirale, on peut les faire fusionner et former une galaxie elliptique. Alors, vous voyez que c'est une façon de faire bouger les galaxies dans ce diagramme d'Hubble. On peut avoir deux galaxies, par exemple, spirales de ce type-là, une galaxie spirale avec et sans barre, les faire fusionner et former une galaxie elliptique. Donc, ce diagramme n'est pas un diagramme statique. Les galaxies dans ce diagramme peuvent occuper des régions différentes au cours du temps. Alors, dans les dernières, j'ai encore une dizaine de minutes. Je voudrais, jusqu'à présent, on a beaucoup regardé, je vous ai montré beaucoup d'images, soit prises par Gaïa, soit par l'Hubble Space Telescope. Donc, on était dans le domaine du visible, essentiellement. Et là, aussi parce qu'on est dans la semaine du James Webb à l'IAP, je voudrais sortir du domaine du visible et aller regarder qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les galaxies si on regarde à différentes longueurs d'onde. Pourquoi on veut regarder les galaxies à différentes longueurs d'onde? Donc la première chose à comprendre, c'est que quand on regarde les objets qui sont dans l'univers, en fait, émettent de la lumière à toutes les longueurs d'onde. Mais du spectre électromagnétique. Mais la majeure partie de cette lumière, en fait, n'arrive pas sur Terre parce qu'elle est bloquée par l'atmosphère. Donc, c'est ce qui est montré, par exemple, dans cette figure ici à haut ou en bas, où ce que vous voyez avec cette courbe noire, c'est dans quel domaine de longueur d'onde, que c'est sur l'axe des X, la lumière d'un objet céleste peut arriver à nous. Et essentiellement, on a deux grandes fenêtres sur Terre pour étudier les galaxies. Une fenêtre qui est dans le visible et une fenêtre qui est ici dans le radio. Mais si on veut, et on a quelques petites fenêtres dans l'infrarouge proche, mais si on veut aller étudier ces objets à d'autres longueurs d'onde, par exemple dans les rayons gamma, dans les rayons X, donc si on veut étudier tous les phénomènes qui sont très énergétiques, par exemple dans les galaxies, ou si on veut regarder dans l'infrarouge, il faut aller dans l'espace. Il faut se libérer de cet brouillard qui est donné par l'atmosphère terrestre. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec le James Webb Space Telescope, qui est un télescope qui a été lancé il y a maintenant presque 3 ans, en décembre, le jour de Noël, si je ne me trompe pas, de 2021. Donc, James Webb observe l'univers à partir de 1 million de kilomètres et demi de la Terre et observe l'univers dans les longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc, pourquoi on veut aller? Donc, ici, vous avez le spectre électromagnétique, la région observée par le télescope Hubble et la région du spectre électromagnétique qui est maintenant dans l'infrarouge James Webb est en train d'observer. Donc, pourquoi on veut aller observer dans l'infrarouge? Mais parce que dans l'infrarouge, on voit des choses qu'on ne peut pas voir dans le visible. Par exemple, on peut avoir, donc ici vous avez un exemple, la même galaxie observée, c'est une galaxie spirale, à haut telle qu'elle était observée par l'Hubble Space Telescope et en bas telle qu'elle est observée par James Webb. Et on découvre des détails auxquels on n'avait pas accès avec HST. Donc, par exemple, dans l'image de l'Hubble Space Telescope, on voit très bien la structure spirale. On voit toutes ces régions un peu bleues qui sont des régions éparpillées dans les bras spiraux qui sont des régions de formation stellaire. Après, on voit dans les régions centrales une distribution plus jaunâtre qui indique qu'il y a, entre autres, des étoiles un peu vieilles. Mais quand on va, en fait, dans l'infrarouge, on peut aller voir toute la distribution de la poussière. Qu'est-ce que c'est la poussière? En fait, sont toutes des particules qui sont laissées redonner au milieu interstellaire par les étoiles à la fin de leur vie, et donc qui constituent une partie du milieu interstellaire et qui en fait sont quelque part chauffées et donc émettent dans l'infrarouge quand ils sont proches d'étoiles jaunes. Donc, quand on regarde la distribution de la poussière, entre autres, on est en train de voir les régions où il y a eu de la formation stellaire récente. Et là, vous voyez cette image de bas qui est magnifique, parce qu'en fait, on commence à voir toute cette structure de filaments qu'on a dans le milieu interstellaire, qui sont liés à la poussière et qui sont donc liés à une formation, une activité de formation récente. Ici, vous avez encore une image d'une autre galaxie, à gauche HST, Hubble Space Telescope, à droite, vous avez l'image James Webb, on regarde là dans les régions les plus internes de la galaxie, et au milieu, vous avez une combinaison des deux, et encore une fois, vous voyez que par exemple, avec James Webb, ici sur la droite, on peut en fait pénétrer beaucoup plus dans les régions internes de cette galaxie parce que la sensibilité du James Webb est supérieure à celle du HST parce qu'on n'est pas en train d'observer dans les mêmes longueurs d'onde. Et par exemple, on voit qu'il y a toute cette région qui est montrée ici en bleu qui est une région de formation stellaire récente qu'on ne pouvait pas voir dans l'image à gauche. Alors, mes dernières vraiment minutes, je voudrais les dédier à dire que donc James Webb est en train de changer de fenêtre de longueur d'onde, nous permet d'avoir accès à d'autres propriétés des galaxies qui ne sont pas nécessairement claires dans le visible. Et c'est en fait en mettant ensemble, en combinant des observations à des différentes longueurs d'onde, qu'on peut arriver à reconstituer les propriétés de ces galaxies. Mais il y a une autre chose qu'on est en train de découvrir et d'apprendre dans les dernières années, ce n'est pas juste sur les galaxies à niveau local, mais c'est sur les galaxies à plus grand redshift. Sans rentrer dans les détails du redshift, mais disons que quand on parle de grand redshift, ça veut dire qu'on est en train de regarder des galaxies telles qu'elles étaient il y a plusieurs milliards d'années. Parce que vous savez que le plus une galaxie est lointaine de nous, un objet céleste est lointain de nous, le plus il faut de temps pour que la lumière arrive jusqu'à nous. Donc, quand on regarde lointain dans l'univers, on regarde à des époques qu'on appelle précoces, c'est-à-dire à comme l'univers était il y a 5, 6, 10, 13 milliards d'années. Alors, et jusqu'à il y a quelques années, on revient à cette forme des galaxies parce que c'est intéressant. On avait compris que la fraction, c'est-à-dire combien de galaxies on a de forme elliptique, spirale ou de forme particulière, cette fraction, le pourcentage de galaxies de chaque type, dépendait de l'époque à laquelle on regardait dans l'univers. Ce qui est montré dans cette figure qui est un peu complexe, mais on essaye d'y passer à travers. Donc, vous avez ici essentiellement l'axe vertical qui vous montre la fraction de galaxies d'un certain type. Et sur l'axe des X, vous avez le temps arrière. Donc, ici, vous êtes aujourd'hui. Et ici, par exemple, vous êtes, il y a un redshift, ce qui est appelé redshift 2, vous êtes il y a 10 milliards d'années. Vous êtes en train de regarder les galaxies telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années. Et ces courbes, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Que la courbe rouge décline comme on va d'aujourd'hui vers le passé. La courbe rouge est la fraction de galaxies elliptiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de galaxies elliptiques qu'il y a 10 milliards d'années. Si on regarde le bleu, c'est-à-dire les galaxies à disque, grosso modo, cette fraction est restée constante dans les derniers 10 milliards d'années. Par contre, la fraction de galaxies avec des formes particulières augmente avec le temps, c'est-à-dire plus on remonte arrière dans les premières phases d'évolution de formation de l'univers, plus on voit de structures avec des formes particulières. Maintenant arrive James Webb. Et James Webb est en train d'apporter en fait une vision différente et nouvelle par rapport à ce qu'on avait avec Hubble. Ce qu'on est en train de découvrir avec James Webb, c'est que comme on remonte le temps, on s'attendait de voir moins et moins de galaxies avec des formes qu'on a classées comme on les a vues dans l'univers local, c'est-à-dire des galaxies spirales, des galaxies barrées, des galaxies à disque. On ne s'attendait pas à trouver la quantité de galaxies de ce type que le télescope James Webb est en train de nous révéler. James Webb est en train de nous montrer qu'il y a 9-10 milliards d'années, c'est-à-dire quand l'univers était jeune, avec 3 milliards d'années, il y avait déjà une fraction importante de galaxies qui avaient une structure similaire à celle qu'on voit, par exemple, dans la Voie lactée aujourd'hui. Et ça nous pose des questions, parce qu'on n'est pas capable encore d'expliquer pourquoi ces galaxies acquièrent leur forme de façon si précoce. C'est les barres, mais c'est aussi les bras spiraux. Ici, c'est un exemple d'une galaxie telle qu'elle est vue comme elle était il y a environ 11 milliards d'années. Hein? Et on voit encore des bras spiraux autour de cette galaxie. Et je termine sur la plus ancienne galaxie, qui est en fait la plus ancienne ou la plus jeune, ça dépend comment on regarde le temps, comment on met l'axe des temps, mais qui a été observée par James Webb. Donc c'est un travail, en fait, c'est une découverte de cette année. Le nom de la galaxie est écrit là-haut, Jades JS Z14, et qui est une galaxie qui est observée à une époque qui était juste de 300 millions d'années après la formation de l'univers, après le Big Bang. Donc c'est une galaxie très très jeune, Donc la lumière a voyagé essentiellement pour plus de 12 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Et ce qui est très intéressant de cette galaxie, c'est que cette galaxie a une forme et une masse qui étaient inattendues par son âge. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, dans un langage un peu plus spécifique, une galaxie mature. C'est-à-dire, elle a des propriétés qui sont plus typiques de galaxies plus proches de nous que de galaxies à des époques si reculées. Et donc, James Webb, ce qu'il est en train de nous révéler, c'est qu'il y a une population de galaxies. Je vais vous montrer avant les exemples de galaxies avec bras spiraux, avec des barres, des galaxies qui sont déjà très massives, qui pointent peut-être vers une évolution plus rapide des galaxies, de celles qu'on pensait jusqu'à présent et de ce que les modèles prédisent. Donc, j'arrive à mes conclusions en vous disant que j'espère de vous avoir montré que le chemin pour arriver à comprendre, à décortiquer qu'est-ce que c'est une galaxie, pourquoi il y a plein de galaxies autour de nous, comment on est arrivé à comprendre cette chose-là, ça nous a pris du temps. Les observations, c'était fondamental de passer évidemment à des observations faites avec des instruments, de Galilée à des époques plus récentes. Et nous avons aussi découvert que les galaxies viennent avec des formes, mais que ces formes peuvent changer au cours du temps. Et comprendre comment ces formes se mettent en place, en fait, ça nous permet de comprendre quelque chose sur l'évolution des galaxies, mais aussi plus en général sur la redistribution de matière dans l'univers. Et je vous laisse, en fait, avec certaines des nombreuses questions qu'on se pose à propos de ces découvertes récentes, mais aussi plus anciennes. Une galaxie comme la Voie lactée, comme la nôtre, c'est-à-dire une galaxie à disque, à quelle époque elle s'est vraiment formée? Et à quelle époque une galaxie comme la nôtre, par exemple, a acquis les propriétés qu'on voit aujourd'hui? Donc je vous laisse ici et je vous remercie pour l'attention.
Merci beaucoup Paola pour cette vue de plus d'un siècle en fait de compréhension des galaxies. Alors il y a quelques questions et commentaires sur internet, hein, mettez-en d'autres, je vais les transcrire. Je vais commencer par une question dans la salle si vous voulez, là-haut, oui.
Bonjour, merci beaucoup pour la qualité de la conférence. Je me demandais juste si les objets qui sont au centre des galaxies, on n'en a pas trop parlé, notamment des trous noirs, est-ce qu'ils ont une incidence sur la forme que va prendre une galaxie ou non ?
Alors, on ne pense pas que le trou noir, parce que le trou noir, c'est vrai, c'est un objet qui peut être très massif, de millions, dans le cas de la Voie lactée, c'est 4 millions de masses solaires, dans le cas de galaxies un peu plus massives, ça arrive à plusieurs milliards de masses solaires qui sont au centre des galaxies. Mais ont un effet sur des régions qui sont quand même limitées, vraiment aux régions plus internes. Par contre, donc, l'effet d'un trou noir sur la morphologie, sur la forme de la galaxie dans son ensemble, non. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des relations entre certaines des propriétés des trous noirs, par exemple leur masse, et la quantité de masse qu'on a dans les régions centrales des galaxies. Donc les fameux bulbes qu'on voit au centre des galaxies spirales, par exemple, mais c'est aussi le cas des galaxies elliptiques, on voit qu'il y a des relations qui lient la masse. Donc, le plus la masse du trou noir est importante, significative, le plus la masse du bulbe dans les régions centrales est grande. Ce qui nous suggère que que le trou noir central supermassif et les régions centrales des galaxies ont évolué quelque part ensemble. Mais les détails de cette chose-là, on ne le comprend pas bien, donc je n'ai pas parlé de trou noir supermassif parce que c'est vraiment un chapitre à part. Mais, par exemple, James Webb a observé, parce qu'une des façons de former ces trous noirs supermassifs, on pense que c'est par fusion de galaxies, parce que chaque galaxie a un trou noir à son centre. Quand les galaxies fusionnent, ben aussi les trous noirs vont fusionner. Et James Webb a observé, je pense cette année, deux galaxies en interaction quand l'univers avait moins d'un milliard d'années, pour lesquelles on a pu mettre en évidence qu'au centre, il y a des trous noirs. Et donc, c'est une première indication que même à très haut redshift, c'est-à-dire dans les premières phases d'évolution de l'univers, ces fusions de galaxies peuvent être un mécanisme de former ces trous noirs.
Merci. Alors, une question qu'il y a sur Internet. Comment pouvons-nous situer la Terre et la position du Soleil, notre position dans la galaxie, puisque nous n'avons pas de vision externe? Et puis, en complément, est-ce qu'il y a des incertitudes? Est-ce que vraiment on connaît bien la position du Soleil dans la galaxie, ou il y a quand même des incertitudes?
Alors, il y a différentes façons d'arriver à placer, disons, la position du Soleil par rapport au sein galactique. Ça peut être des observations faites à différentes longueurs d'onde pour essayer de mesurer cette distance. Il y a des incertitudes, mais les incertitudes restent limitées. Dans le sens, la position du Soleil, la distance du Soleil au sein galactique, c'est d'environ 1,2 kiloparsec, comme il était estimé par Gravity, et les incertitudes là-dessus sont de l'ordre du centaine de parsec. Donc, sont petites par rapport à la distance mesurée. Ce qui est plus difficile, en fait, c'est comprendre notre position par rapport à la périphérie du disque. Parce que la périphérie du disque de la galaxie, on en connaît, j'avais dit que le Soleil est environ à mi-chemin. J'ai un peu triché, dans le sens que ça, c'est dans l'image artistique qu'on a vue, mais en fait, on a du mal à définir les bords du disque de notre galaxie, parce que ce sont des régions très perturbées, où il y a eu des interactions avec d'autres galaxies qui ont beaucoup perturbé le disque. Donc, c'est difficile, pas vraiment de placer le Soleil par rapport au soin galactique, mais de le placer par rapport à sa périphérie.
Merci. D'autres questions dans la salle, oui?
Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de la présentation. Vous avez eu un discours technique, mais à la fois accessible probablement pour beaucoup de profanes, donc ce qui a donné un caractère très pédagogique à la présentation, donc je voulais vous en remercier. Alors, j'ai plein de questions, hein, bien sûr, mais bon, je vais vous poser que deux. J'ai choisi... à l'instant. La première, c'est quand vous avez montré la photo qui a été prise par votre ami depuis la vallée de la mort,
oui,
de la galaxie, vous avez dit il y a cette partie noire, je vous en parlerai plus
c'est
tard,
vrai.
Et j'ai attendu et c'est pas venu. Alors
vous
je profite
raison.
Pour poser la question. Et puis j'avais une deuxième question, excusez-moi, je vous interromps, mais comme ça je n'oublierai pas ma deuxième question parce que j'en ai tellement. C'est à la fin, vous parlez de la galaxie qu'on a observée et apparemment, elle n'aurait pas dû avoir cette forme-là vu son âge. Et la question que je pose, peut-être qu'on s'est trompé sur l'âge de la partie de l'univers qu'on observe depuis ici et maintenant.
Alors,
merci.
Je réponds d'abord à la dernière question. En fait, il y a eu un questionnement sur le fait est-ce qu'on a bien daté l'époque de cette galaxie, de quelle époque la lumière est en train de nous arriver. Mais après l'avoir observé, il y a eu des mesures des spectres de cette galaxie qui nous permet en fait d'avoir des informations, disons, sur l'époque à partir de laquelle la lumière nous arrive, qui sont très fiables. Donc, il semblerait que effectivement cette galaxie est, on la voit telle qu'elle était environ 300 millions d'années après le Big Bang, et que cette datation peut être considérée fiable, parce que on a eu des mesures indépendantes à partir des spectres. En fait, on peut mesurer ce qu'on appelle le redshift, c'est-à-dire le décalage du spectre dans le rouge. Et à partir de ce décalage, il y a une relation entre le décalage et la distance d'une galaxie. Donc tout ça, ça nous permet de dire où cette galaxie se situe dans l'échelle temporelle d'évolution de l'univers. Et donc, il semblerait qu'effectivement, c'est une galaxie dont la lumière nous arrive comme elle était il y a 300 millions d'années environ après le Big Bang. Donc, il semblerait, et ce n'est pas l'unique galaxie. Donc, il y a toute une série d'indications. Donc, quand je parlais des barres, des bras spiraux, on trouve des structures que nous, on appelle des structures matures, c'est-à-dire des structures qu'on pensait de voir dans des galaxies à des époques plus tardives, c'est-à-dire plus proches de l'univers actuel, parce qu'on a toujours pensé qu'il faut du temps. Il faut du temps pour qu'un disque d'une galaxie se forme, il faut du temps pour qu'une barre se mette en place, il faut du temps, il faut que l'environnement de la galaxie, qu'il n'y a pas beaucoup de perturbations dues à d'autres interactions avec d'autres galaxies, il faut que tout se calme un peu pour que cette structure, la barre, les bras spiraux, se mettent en place. Et par contre, on commence à voir de plus en plus de ces structures à des époques suffisamment précoces de l'histoire de l'univers, et pour l'instant, on a besoin de comprendre pourquoi. Donc, il y a plusieurs indications qui nous semblent montrer que les galaxies, au moins les galaxies qu'on peut observer, ce n'est pas dit que sont les progéniteurs de notre galaxie à nous, mais ces galaxies-là, il y a au moins une partie de galaxies qui ont des propriétés bien développées à des temps très précoces. Et la première, oui, pardon. Et en fait, c'est la poussière. Donc, en fait, j'ai mentionné la poussière, mais c'est vrai, je ne suis pas revenue là. Et je veux juste vous montrer peut-être cette image-là qui vous permet. C'est un peu le même exemple. Donc, ça, ce n'est pas la Voie lactée. C'est une galaxie externe. C'est une galaxie qu'on voit de tranches. Vous voyez le disque d'étoiles. Et là aussi, vous voyez une sorte de bande marronâtre. C'est quoi? C'est toute la poussière qu'il y a dans le disque de la galaxie qui est due à tout ce que les étoiles qui ont évolué, sont mortes au cours du temps, ont laissé dans le milieu interstellaire. Cette poussière absorbe une partie de la lumière qui nous arrive des étoiles. Donc c'est comme si on voit un rideau qui est mis sur une partie, et c'est exactement la même chose qu'on voit dans le cas de la Voie lactée. On est dans le disque, et c'est l'un des problèmes qu'on a pour comprendre notre galaxie. On est dans le disque, et en plus, on a, quand on regarde surtout vers les régions internes de la galaxie, on a la poussière, on a beaucoup de poussière qui absorbe une partie de lumière qui vient des étoiles. Donc ça rend la compréhension de la galaxie un peu plus difficile, parce qu'on ne voit pas tout. Il faut aller à d'autres longueurs d'onde, notamment dans l'infrarouge, pour arriver à se débarrasser un peu de cet effet d'absorption qui est dû à la poussière.
Merci. Alors, sur le chat, on a beaucoup de questions sur les trous noirs. Alors, je ne vais pas toutes les poser, je vais juste en poser juste une, parce que vraiment, il y a de la pression sur les trous noirs.
C'est pas ma spécialité, le trou noir, donc j'essaye de répondre.
J'ai bien compris, oui, mais lié aux galaxies, oui. Est-ce qu'on pense, en fait, est-ce qu'il y a des indices qui pourraient suggérer que les trous noirs centraux seraient vraiment l'élément principal pour la formation des galaxies, ou est-ce que c'est toujours très mystérieux et on ne sait pas vraiment, en fait?
Je ne sais pas répondre. Alors, il y a sûrement la question de comment on arrive très rapidement à former des choses qui peuvent être de millions de masses solaires. Mais même encore pour une galaxie comme la Voie lactée ou des galaxies plus massives, c'est difficile d'arriver. Parce que, par exemple, pour longtemps, on a pensé que la façon de former ces trous noirs supermassifs, c'était par fusion de galaxies. Mais ça, c'est un processus qui prend du temps. Et donc arriver à comprendre si effectivement ce processus est suffisamment efficace pour amener des milliards de masses solaires dans un objet si compact, c'est une question ouverte. Alors, est-ce que les trous noirs sont vraiment la graine, si je comprends la question, à partir duquel les galaxies se sont formées? Je ne sais pas, mais je pense que pour comprendre probablement cette formation des galaxies, possiblement, on comprendra ces deux choses ensemble, c'est-à-dire que ce sont deux choses liées. Je pense qu'on n'a pas encore clair vraiment les mécanismes qui sont à l'œuvre pour former ces trous noirs supermassifs à des époques anciennes ou précoces par rapport au début de l'univers. Et probablement, arriver à comprendre ces mécanismes nous dira quelque chose sur l'évolution de galaxies à ces époques.
Oui. Merci. Alors, reste-t-il des questions dans la salle? Là, je vais encore en prendre une ou deux. Allez, ici.
Bonjour, merci pour votre présentation. On a beaucoup parlé de naissance de galaxies et comment elles évoluaient, et je me demandais en fait comment elles meurent au bout d'un moment quand il n'y a plus d'activité, plus de formation d'étoiles, que se passe-t-il en fait, et est-ce qu'on en a déjà observé?
Oui, on les observe, et en fait, les galaxies, par exemple, lenticulaires, donc une galaxie, J'aimerais dire peut-être ne meurt jamais, ou il y a toujours des étoiles si la galaxie avait au moins des étoiles, même si elle consomme tout son gaz parce qu'il est converti en étoile, parce qu'il est arraché par tous les phénomènes qu'on a vus et donc il va être dispersé dans l'environnement autour des galaxies. Il reste quand même, jusqu'à quand il reste des étoiles, ils peuvent être des étoiles d'âge différent, mais on a encore des étoiles vieilles dans ces galaxies. Mais les galaxies peuvent se recycler dans d'autres formes, on l'a vu, mais on peut aussi, dans ces études dans lesquelles on classe et on essaye d'étudier les galaxies sous la base de leurs propriétés, on voit qu'il y a des galaxies qu'on appelle, par exemple, on peut classer les galaxies aussi par couleur. On l'a un peu vu, il y a des galaxies elliptiques qui nous apparaissent, même sur les images Hubble, un peu plus rougeâtres, alors que les galaxies spirales, elles ont toujours des taches plus bleues qui sont dues à la formation stellaire récente. Donc on peut aller regarder les couleurs de ces galaxies et on peut voir que les galaxies peuvent être classées en galaxies de ce qu'on appelle la séquence rouge, une séquence bleue. Donc la séquence rouge est faite de galaxies qui essentiellement ne font plus d'étoiles aujourd'hui, donc on formait les étoiles dans le passé et pour différentes raisons ont exhausté tout leur gaz, alors que dans la séquence bleue, il y a encore des galaxies qui forment activement des étoiles. Et après, comme souvent, il y a une chose intermédiaire, que c'est ce qu'on appelle la vallée verte, et on situe une galaxie comme la Voie lactée. Parce que c'est une galaxie qui est encore en train de former des étoiles, mais à un taux de formation stellaire qui n'est pas extraordinaire. 1-2 masses solaires par an. Donc 1-2 soleils par an dans la galaxie. Donc il y a, c'est clair qu'il y a, on pense qu'il y a un passage, que des galaxies qui étaient à un moment donné de leur vie activement en train de former des étoiles ont cessé de former des étoiles et vont évoluer vers cette séquence rouge. Et éventuellement, à partir de la séquence rouge, si les galaxies sont capables de réaccréter du gaz, elles peuvent recommencer à former des étoiles. Donc possiblement aussi de la séquence rouge, on pourrait aller vers la verte et la bleue.
Merci. Allez, je propose une toute dernière question, si vous voulez.
Merci beaucoup. Je voulais juste poser une question. C'est par rapport au regard qu'on a sur l'univers jusqu'à aujourd'hui. Il a été marqué vachement par tout le travail d'Einstein et ses collaborateurs. Et est-ce qu'à partir du moment où on a observé des variations de masse attribuées à la matière noire, c'était pas déjà normalement le moment où il fallait se dire que cette théorie elle a un problème puisqu'elle est basée sur le fait que l'univers serait homogène et isotrope, etc. Et est-ce que l'idée d'Einstein d'un espace-temps, finalement, ça ne remet pas en question la propriété de masse de la matière, en fait ? Alors, et qu'elle serait un phénomène émergent ?
Alors, je ne pense pas qu'il y a de... On a difficulté à expliquer, on a des difficultés à expliquer l'univers à différentes échelles. Il y a des choses qu'on n'a pas compris, autant à l'échelle locale de la galaxie qu'à des échelles plus grandes. Mais le fait que toute masse implique une distorsion de l'espace-temps, c'est quelque chose que la théorie nous suggère, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, quand on a des phénomènes comme les lentilles gravitationnelles. Qu'est-ce que sont les lentilles gravitationnelles ? C'est de la lumière qui nous arrive d'un objet loin, qui passe à travers de la matière, qui peut être visible ou pas visible, et cette lumière qui nous arrive de l'objet lointain est déformée par effet de cette matière, de cette masse qui est entre nous et l'objet. Donc, on a des preuves que cette déformation de l'espace-temps est effectivement en place. Alors après, comment arriver à réconcilier vraiment la vitesse à laquelle les structures peuvent se former dans l'univers ? Ça, je pense, c'est une des questions qui est encore ouverte. Comment on passe de quelque chose, on sait comment on passe de ces petites variations qu'on voit dans le fond diffus, par exemple micro-ondes, jusqu'à nous. On a une idée de comment cette chose-là évolue et les simulations, par exemple, tout ce qui est fait à niveau des simulations cosmologiques nous aide exactement à faire ça, à comprendre comment la structure de l'univers change en fonction du temps, mais il reste des questions. Il reste des questions sur la nature de la matière noire, il nous reste beaucoup de questions.
Eh ben, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'on se retrouve... Merci. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc pour la prochaine conférence le 7 janvier prochain, donc à l'IAP par James Lequeux, qui nous parlera de Nicolas Louis de la Caille, découvreur du ciel austral. Donc merci à vous tous d'être venus, merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet, et de nouveau, merci Paola pour cette conférence.
Merci à tous.
Voilà. Bonsoir.